Encore deux semaines avant de retrouver un peu de liberté. Fin du port du masque à l'extérieur, fin des jauges dans les stades de foot. Jean Castex a dévoilé le calendrier de la levée progressive des restrictions. Un agenda qui pourrait aussi coïncider avec l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Un stress pour les ados et leurs parents. La plateforme Parcoursup est ouverte. 10 vœux à choisir parmi 20 000 formations. Comment rester zen et surtout quelle stratégie adopter? Quelques astuces à suivre dans ce journal. Et puis ce procès hors du commun. Aujourd'hui à Paris, le responsable d'une association d'aide aux migrants est poursuivi pour exploitation de sans-papiers, un engrenage qui a fait plus d'une centaine de victimes.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. La sortie de crise est en vue. Message de Jean Castex aux Français hier soir. L'exécutif change d'approche face aux variants Omicron, plus contagieux mais moins dangereux. 337 000 cas quotidiens en moyenne, un indicateur en hausse. Dans les services de réanimation, en revanche, la pression diminue. Une centaine de malades en moins en une semaine. Un critère crucial pour le Premier ministre.
Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée. Mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement. La première évolution positive est que la vague liée au variant Delta est partout en net reflux. C'est très important car vous savez que ce variant Delta était plus dangereux que les variants précédents. Depuis une semaine, le nombre des malades en réanimation se réduit enfin légèrement. Et cette baisse devrait se prolonger à mesure que le variant Delta poursuivra sa décrue.
Une baisse des admissions en réanimation qui permettent à l'exécutif de lâcher du lest sur les restrictions sanitaires.
Oui, avec une première étape le 2 février dans moins de deux semaines. Fin du masque obligatoire en extérieur, fin des jauges aussi dans les stades et les salles de spectacle. Autre date à retenir, le 16 février avec la réouverture des boîtes de nuit. La sortie de crise sanitaire justement, c'était l'une des conditions posées par le président pour entrer en campagne. Alexandre Chauveau, le calendrier avancé hier soir par le Premier ministre ouvre la voie à Emmanuel Macron.
Oui, Jean Castex a en quelque sorte préparé le terrain pour la déclaration de candidature du président. L'objectif est clair, montrer que la stratégie du gouvernement a fonctionné et que les mesures prises en fin d'année dernière ont porté leurs fruits. Emmanuel Macron compte ainsi apparaître comme un président capable de prendre des décisions impopulaires, mais aussi de desserrer l'étau lorsque la situation le permet. Le chef de l'État avait officieusement conditionné son entrée en campagne à la baisse de l'épidémie. L'amélioration de la situation sanitaire devrait ainsi contribuer à accélérer sa décision. À l'Élysée, on confie que plus rien ne le retient désormais de se porter candidat à sa réélection. La majorité a d'ailleurs été missionnée pour défendre son bilan en insistant sur la gestion de la cinquième vague, pourtant très critiquée par les oppositions. Ordre a également été donné d'éviter la moindre polémique, comme celle autour des vacances de Jean-Michel Blanquer cette semaine. En clair, Emmanuel Macron attend que l'horizon soit parfaitement dégagé pour enfin officialiser sa candidature.
Précision signée Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et puis dès lundi, le pass sanitaire se transformera en pass vaccinal pour les plus de 16 ans. Une application toutefois conditionnée à l'avis du Conseil constitutionnel attendu aujourd'hui. En Europe, l'Autriche a choisi une autre méthode. Le Parlement a adopté hier soir une loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes dès le 4 février. Une première en Europe.
C'est une machine à stress. Pour vous, adolescents ou vous, parents, la plateforme Parcoursup, ouverte aux lycéens en terminale depuis hier matin.
C'est la porte d'entrée vers les études supérieures. 800 000 jeunes ont un mois pour sélectionner une dizaine de vœux parmi 20 000 formations. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour s'assurer une bonne place? Les conseils de Louise Salé.
Une règle, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Dans les 10 vœux à indiquer sur la plateforme jusqu'au 29 mars, il est très important de choisir des filières sélectives qui sont souvent les plus demandées et des filières non sélectives. Thibaut Cogent travaille sur l'orientation post-bac pour l'étudiant.
C'est bien de sécuriser un petit peu ses choix en prenant un espace pour un vœu non sélectif, c'est-à-dire une licence qui n'est pas en tension, dans laquelle on pourra retravailler l'année prochaine un futur dossier pour recandidater aux formations qui nous ont refusées.
Il faut aussi bien s'informer des fiches synthétiques sur Parcoursup présente les formations et donne les critères de sélection sur lesquels les établissements s'appuient. Il y a aussi les sites de l'ONICEP et de l'étudiant, les salons et les portes ouvertes. Parcoursup, enfin, c'est une réflexion à mener en famille avec un peu de recul sur tous les conseils reçus.
Parfois, les parents se projettent un petit peu trop sur leurs enfants et ils aimeraient bien qu'ils fassent ce qu'eux auraient voulu faire. Un truc qui est bien avec l'entourage adulte, c'est de leur demander de parler des métiers de leurs collègues. On connaît les métiers de ses parents, mais peut-être que dans l'entreprise de ses parents, il y a des collègues dont on n'a jamais entendu parler, qui font des métiers particuliers qu'on ne connaissait pas.
L'étape suivante, ce sera les lettres de motivation à rendre avant le 8 avril.
Louis Salé.
C'est l'histoire d'une association d'aide aux migrants qui exploitait des sans-papiers. Procès hors du commun cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris.
Une association parisienne et trois de ses responsables sont jugés pour traite d'êtres humains aggravés. Vite Paris était agrémenté pour aider les migrants, notamment pour avoir une adresse administrative ou pour suivre des formations. Une mission totalement dévoyée, Gladys Lafitte.
Oui, pendant 10 ans, le président de l'association a mis en place un véritable système d'exploitation de ces personnes vulnérables. Des migrants convaincus que cet homme les aidait. 159 victimes ont été identifiées par l'inspection du travail. Elles étaient forcées à faire du soi-disant bénévolat. Maître Aline Chanu défend 52 victimes tombées sous l'emprise du président de l'association.
Il va faire payer des services qui en principe sont gratuits. Et donc on va avoir une mécanique de création de la dette. Il va leur proposer de travailler pour lui 60 heures, 80 heures par semaine. Il va leur faire croire que tout ce qu'ils vont faire pour l'association va leur permettre d'être régularisés. Tout est bidon en fait, hein. Quel que soit l'âge, la culture, ils vont être pris dans cet engrenage, ils vont être broyés en fait.
L'homme réalise comme ça 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il est accusé de s'être enrichi sur le dos de ses victimes qui subissaient humiliation et racisme et parfois des violences sexuelles qui feront l'objet d'un autre procès. Il risque 15 ans de réclusion criminelle.
Le récit de Gladys Lafitte.
6 heures passées de 6 minutes sur Europe 1 et cette question, le déploiement de la 5G peut-il être un risque pour l'aviation?
C'est en tout cas la crainte d'une dizaine de compagnies aériennes américaines après l'installation d'antennes relais à proximité de tours de contrôle aux États-Unis. Plusieurs centaines de vols ont déjà été annulés cette semaine. Aurélien Fleureau, faut-il s'attendre au même problème en France ?
Alors, il faut d'abord savoir que les fréquences utilisées en Europe et aux États-Unis ne sont pas exactement les mêmes. En France, elles sont plus basses, donc il y a moins de risques d'interférence sur les radioaltimètres Céradar qui permettent aux avions de connaître la distance précise avec le sol. Et puis surtout, les autorités ont pris les devants depuis de longs mois. La Direction générale de l'aviation civile a mis en place des zones de protection autour des 17 plus grands aéroports français. Un principe de précaution qui n'avait pas beaucoup plu à Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free, mais cela devrait maintenant permettre un déploiement plus serein de la 5G selon Gilles Brégand, directeur général de l'Agence nationale des fréquences.
Il y a peut-être une prise de conscience qui est un peu plus tardive du côté américain entre les différentes administrations concernées, mais c'est un problème technique qui a une solution technique. Et en France, on est en train d'arriver, je pense, au bout de ces tests. Et je pense que dans quelques mois, on pourra lever les mesures transitoires en constatant que les radioaltimètres et donc les avions fonctionnent bien en présence de 5G, bien sûr.
La situation devrait être normalisée mi-2022, le temps d'harmoniser les règlements au niveau mondial.
Aurélien Fleureau. Et puis un mot pour finir, tout simplement. Merci, merci à vous. Près de 50% des Français considèrent la radio comme le média le plus crédible à égalité avec la presse écrite. Résultat du baromètre Lacroix Kantar Public. Et ça, c'est sûr, c'est grâce à vous, Julien Yomblin.
Ah oui, bien sûr. Et puis à vous, à votre journal régulier et à l'heure, tous les matins à 6h. Merci beaucoup,
Romain. C'est l'opportunité qui définit le journal de...
Voilà, exactement.
Mais les Français aiment les journaux ponctuels. Voilà.
Merci, Julien.
Merci.
6h08.